Ce n'était pas tout de suite évident, mais ce soir, ce sera un peu plus évident. Il y a le texte que les Hamshek Nesset HaGdola, qui sont les maîtres qui ont en fait établi. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, les Hamshek Nesset HaGdola, tout le monde sait qui sont les Hamshek Nesset HaGdola. Avant la notion, avant le Sanhedrin, alors le Sanhedrin, c'est les 72 membres. Avant cela, il y avait une autre assemblée qu'on a appelée Hamshek Nesset HaGdola, les gens de la Grande Assemblée. C'était une assemblée de 120 personnes qui ont, entre autres, établit toute la tfila, le noussach, la formule, les formules utilisées dans la prière. Dans les Hamshek Nesset HaGdola, il y avait encore des Nevi'im. Dans les Hamshek Nesset HaGdola, il y avait Mordechai, le Mordechai d'Esther. On parle de Shimon HaTzadik. Quand les Chachamim inventent des choses, ils essayent toujours de prendre modèle sur quelque chose d'existant dans la Torah. Des fêtes, des jours spéciaux. Dans la Torah, il y en a de deux sortes. Il y a le Shabbat et il y a les Moadim. Yom Tov, qui n'ont pas les mêmes dinim. Bon, évidemment, le Shabbat, on ne peut pas le copier. Par contre, dans les moadim, on pourrait prendre des éléments. Ce qui caractérise les moadim, c'est que ce qui est spécifique, c'est que on chante, on dit le Hallel. Shabbat, on ne dit pas le Hallel. Parce que Shabbat, ce n'est pas un moed, on ne dit pas le Hallel. Et la Gemara dans Erchin, elle dit qu'à Rosh Chodesh non plus, on ne dit pas le Hallel. Parce qu'à Rosh Chodesh, on a le droit de travailler. Yom Tov, on n'a pas le droit de travailler. Donc, c'est deux conditions pour pouvoir dire le Hallel, soit un Moed, si on veut, et on ne travaille pas. Nous, on dit un Hallel, on dit la moitié du Hallel. Parce qu'effectivement, dans la Gemara, dans l'écrit, on dit, on le dit pas. Pour ça qu'il y a ceux qui, même quand personne ne dit plus à Rosh Chodesh que la moitié du Hallel, il y a encore une marloquette pour savoir si on fait ou on ne fait pas une bracha, ou éventuellement les Sfaradim qui ont deux brachot différentes, selon que c'est un hallel complet ou un hallel partiel. Les Ashkenazim, ils n'ont pas deux brachot, donc ou ils disent ou ils ne disent pas la bracha sur le hallel. Ceux qui ne disent pas, ils disent la bracha, elle est faite pour ce hallel complet. Le Hallel où on saute des paragraphes, où on dit des demi-paragraphes, etc., c'est pas le Hallel. Pardon? Voilà. Pessah, le deuxième jour, on ne lit pas. Le deuxième jour, c'est Kol HaMoed en Eretz Israël. Nous, on dit, le deuxième jour de Pessah, on ne dit pas parce que il n'y a pas de korbanot spécifique pour le deuxième jour. Ou les autres jours, ou tout en les mêmes korbanot. Tandis qu'à Sukkot, chaque jour est un jour différent pendant lequel on amène des korbanot différents. Donc on dit un hallel complet. Et en plus, Yom Tov, ça c'est comme Shabbat, dans la tfila, en plus du fait qu'il y a une tfila de Moussaf, mais dans la tfila de Shacharit ou de Mincha, il y a des ajouts, il y a un ajout. Yom Tov, Kodesh, l'ajout c'est Yalev Yavo. Les Chachamim ont décidé qu'on allait ajouter quelque chose dans les Moadim qu'ils ont inventé en quelque sorte, dans les fêtes qu'ils ont inventées, c'est-à-dire Pourim et Hanouka, ils ont décidé qu'on allait ajouter quelque chose, mais c'est pas ce qu'on va ajouter. Donc, en fait, on va ajouter un récit de ce qui s'est passé. Et parce que c'est un récit de ce qui s'est passé, alors dans la Amida, dans la Shemoneh Esrei, il n'est pas au même endroit. Bon, le Yalev Yavo, il est dans la partie Ritsui. Enfin bon, vous savez probablement. La Shemoneh Esrei, c'est 18 bénédictions qui sont 19 parce que on en a ajouté une à cause des délateurs, à cause des gens qui voulaient du mal au clan d'Israël. Donc on en a ajouté une 19e. Mais pour ceux qui ont continué d'appeler la fila en question, la Shemoneh Esrei, 18, disent la Amida parce qu'elle est caractérisée par le fait que on ne peut la dire que, enfin, sauf cas exceptionnel, mais on la dit quand on est debout. Et la Shemoneh Esrei, le 18, il y a trois brachot au début qui sont en quelque sorte des louanges quand on se présente. Et d'abord, il faut commencer par faire dire des louanges du roi. Et à la fin, quand on prend congé, il y a aussi trois brachot pour prendre congé, en quelque sorte. Et au milieu, il y a les demandes. Mais il y a les demandes effectives. Et puis ensuite, après avoir demandé, on a une bracha qui parle du ritsui. C'est-à-dire, on voudrait que ce soit agréé, que nos demandes soient agréées. Retsé, ça veut dire agréé. Je t'ai demandé les choses et je demande que tu veuilles bien les agréer. Et dans le agréé, dans le retsé, dans l'agrément, on a ajouté Yalev Yavo. Dans la bracha de l'agrément, cette bracha, elle commence par Retsé, elle termine par Amarzir, Shrinato le Tzion. Bon. Et après celle-là, il y a une bracha de Modim, qui est l'expression de la reconnaissance. C'est deux choses qui ne sont pas la même, pas du tout homogènes. Avec les brachot de demande, c'est pas des demandes. C'est ou bien, enfin, l'agrément, c'est on demande pas quelque chose de spécifique, on demande qu'ils veuillent bien agréer une formule qui a été reprise en formule de politesse. Il y avait un moment où, dans une lettre, à la fin, on disait veuillez agréer mes salutations distinguées, etc. Demandez l'agrément. Et après, il y a donc cette bracha dans le modim. Et dans la fin, dans ces brachot de la fin, alors là-bas, on a ajouté un anissim. Anissim, c'est pas dans la même partie, si vous voulez, que Yalev Yavo. Mais donc, ils ont ajouté aussi quelque chose qui est semblable à la mention dans la prière de la qualité du jour. Shabbat, où il n'y a pas de Yalev Yavo. Et Shabbat et Yom Tov, d'ailleurs, il y a une bracha, la bracha qui remplace les demandes, puisque Yom Tov et Shabbat, on ne demande pas. D'accord? C'est une bracha, c'est Kdushat Hayom, qui parle de la sainteté du jour. On parle du Shabbat, où on parle de Yamim Tovim. D'accord? Dans la Khatima, la Bracha, c'est ou Mekadesh à Shabbat ou Mekadesh Israël Vazmanim. Montrer la fête. Il n'y a pas de Bracha spécifique, ni pour Purim, ni pour Hanouka, mais il y a, ou bien Bimei, Mordechai et Esther à Purim, ou bien Bimei, Yochanan, Kohen Gadol, etc., Hanouka. Dans ce texte, justement, de Al-Anissim, introduit par la justification du fait qu'on a introduit ces fêtes, parce qu'elles ont été fixées parce qu'il y a eu un événement miraculeux. Le miracle de l'échec de la solution finale d'Aman, pas réussi, et le miracle, en vérité, c'est pas très clair de quel miracle on parle. Enfin, oui, c'est très clair, mais nous, on a l'impression que le miracle de Hanouka, celui pour lequel on allume les lumières, c'est le miracle de la fiole d'huile qui a duré pendant 8 jours alors que, en fait, elle devait durer un jour. Mais on ne parle pas de ça du tout dans Al-Anissim. Dans Al-Anissim, on ne parle que de la guerre. Parce qu'il y avait un miracle qui est que, justement, cette archi-minorité, la famille du Kohen Gadol, le Kohen Gadol qui était cachère, parce que les Kohen Gadol qui n'étaient pas cachères, il y en avait d'autres qui étaient complètement acquis aux idées grecques. Cette famille, quasiment, qui a pris les armes, qui a remonté d'autres gens, mais ils ont fait une guerre qui a duré des années, et finalement, ils ont gagné. Ils ont gagné contre la puissance grecque, enfin, les héritiers de l'armée d'Alexandre, les héritiers, les généraux d'Alexandre le Grand. Dans Al-Anissim, on parle de quelle naissent une naissent de la victoire. Il n'y a pas un mot du naissent de l'huile. Alors, dans ce texte de Al-Anissim, on termine en disant Vekavu, donc les descendants, enfin les Kohanim, leurs descendants, Kavu, Shmonat Yemei, les 8 jours de Hanouka, là, ils les ont fixés, le Hodot ou le Hallel, le Shimcha Agadol, pour être modé, c'est-à-dire pour exprimer notre reconnaissance, et pour dire le Hallel pour le grand nom d'Hachem. Ça, c'est ce qui est écrit dans le texte que nous lisons à la Messie. Donc, je vous ai dit, Hanouka, c'est un nes qu'on n'avait pas le droit d'écrire, par opposition à celui de Pourim, on a eu le droit de l'écrire. On l'a écrit et ça a été inclus dans le canon biblique, dans les 24 livres qui forment la Bible hébraïque. Ceux qui ont décidé de qu'est-ce qu'on mettait dans ce fameux canon biblique, qu'est-ce qu'on n'y mettait pas, c'est justement les Anshe Knesset HaGdola. C'est justement cette assemblée-là. Alors, il n'y a pratiquement rien d'écrit. Dans la Gemara, il y a aussi très très peu. On en parle un tout petit peu, comme je vous dis, dans Echin, parce que là-bas, on parle du Hallel. Et on parle un peu plus dans Shabbat, parce qu'on parle des huiles. Dans le deuxième perek de Shabbat, où on parle des huiles et des mèches qu'on a le droit d'utiliser pour Shabbat, on parle aussi, puisqu'on allume aussi des nérotes, enfin, on allume une lumière en priant la Torah, enfin, pas la Torah. Dans l'essentiel de la bracha, de la mitzvah, c'est d'allumer une lumière chaque soir de Hanouka. On utilise aussi des huiles et des mèches. Donc là, on s'est demandé, est-ce que c'est même genre de mèche qu'on utilise pour Shabbat et pour Hanouka? Du coup, on a parlé de Hanouka un tout petit peu. C'est dans la Gemara, dans Shabbat. Et là-bas, la Gemara, elle dit Elle utilise la formule Ve'asaoum Yamim Tovim Behalel Vehoda. Ils ont fait de ces 8 jours un Yom Tov avec Halel et Hoda'a, c'est-à-dire l'expression de la reconnaissance. Donc, ce qui est frappant, c'est que dans la, c'est une braïta dans Shabbat, on mentionne Yom Tov et on ne dit pas du tout dans la Nissim, on ne parle pas de Yom Tov. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Yom Tov? Ok, ça c'est donc la question de départ. C'est pourquoi est-ce que dans le texte qu'ils ont gardé, qu'ils nous ont légué pour qu'on le dise, dans la Shemoneh Esrei et dans Birkat Hamazon, on dit il y a ce Alanissim, il n'y a pas de mention du Yom Tov, alors que dans la Braïta de la Gemara, on parle du Yom Tov. Yom Tov, normalement, c'est le terme qu'on utilise pour les Moadim. Bon, pour l'instant, laissons cette question pour l'instant ouverte. Alors, je vous ai dit, Shabbat, on ne dit pas le Hallel parce que ce n'est pas un Moed. Et Rosh Chodesh, on ne le dit pas parce qu'on travaille. Parce qu'on a le droit de travailler. Il y a la question, pourquoi on dit le Hallel à Hanouka? Hanouka, on a le droit de travailler. Il n'y a pas d'Avamina qu'on ne travaille pas à Hanouka. Mal répond, on dit le Hallel à cause du miracle. Ça veut donc dire qu'il y a deux sortes de Hallel. Il y a un Hallel qui est celui qu'on dit à Yom Tov. Et puis il y a le Hallel qu'on dit au titre du miracle. Et celui de Hanouka, c'est un Hallel au titre du miracle. C'est vrai, mais c'est contraire à l'enseignement qu'on a vu dans Erchin. Il dit que on ne dit pas à Rosh Chodesh parce qu'on travaille, et Hanouka on travaille, pourquoi on le dit? Alors la réponse, c'est de dire la raison pour laquelle on le dit à Hanouka. C'est à cause du miracle. C'est de cela qu'on parle dans Masechet Echin. Mais une fois qu'on a décidé de le dire, parce qu'on dit le Hallel, une espèce de réciprocité, alors ça devient Yom Tov, et c'est de cela qu'on parle dans Shabbat. Comment c'est devenu Yom Tov, dit la Braïta, Asaoum Yom Tov, Alide Hallel Veoda. Donc le Hallel et la Oda fabriquent le Yom Tov en quelque sorte. Donc on met les deux. On a dit le Hallel parce qu'il y avait un miracle, mais maintenant qu'on dit le Hallel, alors le fait de dire le Hallel, ça lui donne une dimension de Yom Tov. Ça explique que bon, on a un peu réduit la différence, enfin réduit le problème, mais en vérité, alors pour résumer, le Alanissim, il rappelle ce qui s'est passé. Dans le Alanissim, on raconte, voilà, à l'époque de Yohanan Kohen Gadol, etc. Malchut Yavan Arsha'a, ce fameux royaume, ce mauvais royaume grec, s'est imposé au peuple d'Israël, ils ont tout impurifié, etc., sur la guerre. Et par conséquent, le Hananissim, il ne s'occupe que de rappeler ce qui s'est passé. Et le Hallel, c'est la Hallel du deuxième type, en quelque sorte, la Hallel à cause du miracle. Et il ne s'occupe pas dans le Hananissim, on ne s'occupe pas des conséquences. Puisqu'on dit le Hallel, alors ça devient Yom Tov, ça c'est le problème de la Gemara dans Shabbat. La vérité, c'est que c'est une jolie explication, mais elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante parce que, voilà, à Purim, on a un texte, on a la Megillat Esther. Et quand on lit la Megillat Esther, il y a un moment où on voit qu'ils ont voulu faire de Purim un Yom Tov. Et quand on continue à lire, on ne parle plus de Yom Tov. Donc à un moment donné, on dit Purim Yom Tov, et puis ils voulaient le faire, et après on n'en parle plus, ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire qu'on a envisagé, puis finalement, on a décidé de ne pas le faire. Dans Megillah, on parle à un moment donné, vers la fin de la Megillah. Ils ont fait Yom Tov, ils voulaient faire Yom Tov, et après, ils ne l'ont pas fait. Et la Gemara, elle explique pourquoi dans la Megillah, on a écrit. C'est l'après coup, donc ils savaient bien qu'on ne l'a pas fait. On a voulu rendre compte du fait qu'on a envisagé. Qu'est-ce que ça veut dire? Envisager de faire Yom Tov, ça veut dire qu'en réalité, ils ont envisagé d'interdire de travailler Yom Purim. Ils voulaient faire de Purim un vrai Yom Tov, où on ne travaille pas. C'est pour ça qu'au début, ils ont parlé de Yom Tov, parce qu'ils voulaient interdire de travailler. Finalement, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas mis le issur melacha, l'interdit de travailler. Par conséquent, on ne parle plus de Yom Tov. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara Megillah qui parle de cette histoire de Purim? Que s'il n'y a pas de issur melacha, on ne peut pas parler de Yom Tov. À Hanouka, il n'y a pas d'issur melacha. On n'a jamais envisagé à Hanouka de mettre un issur melacha, c'est l'interdiction de travailler. Alors pourquoi on dit Hallel? Pourquoi on parle Yom Tov, pardon? Alors c'est comme ça, le sujet commence maintenant, et c'est un sujet qui va tourner autour de deux pivots. Il y a en réalité deux sujets. Premièrement, on va parler de ce qu'on appelle le Bet Din de Hashmonaïm. Et deuxièmement, on va parler de Yom Tov. Et d'abord, on va parler ce soir essentiellement de ce qu'on appelle le Bet Din de Hashmonaïm. On appelle Bet Din, traduit en général Bet Din par tribunal, mais le Sanhedrin, c'était un tribunal, mais c'était le législatif. C'est là-bas qu'on discutait les lois. Donc il est à la fois le législatif et aussi le judiciaire, d'une manière. La Gemara commence par poser une question, quand on va ramener ce Gemara, elle commence par poser la question, pourquoi ça s'appelle Anshe Knesset Agdola? Est-ce que c'est Gdola parce qu'ils étaient 120? Ça, donc, c'est pas essentiel, donc. Ou est-ce qu'il y a une grandeur particulière à cette assemblée parce qu'elle a fait quelque chose Il a grandi, en fait. Donc, évidemment, ce qu'on va essayer de chercher, c'est quelque chose qui grandit l'assemblée, pas parce qu'elle est nombreuse, mais parce qu'ils ont fait quelque chose de grand. Alors, dans d'autres cours, j'ai déjà parlé de ça. Peut-être qu'il y a assez longtemps. D'où vient ce nom? Il vient de la chose suivante. Dans la Amida, nous disons, dans la première bracha, on dit Akel, Agadol, Agibor, Véanora. On dit on se présente devant Hachem, on lui dit, tu es un grand Dieu, tu es puissant, Gibor, et tu es Nora, tu es terrible, effrayant. C'est ça que les Anshe Knesset Agdola ont décidé. Après la destruction du Beth Amikdash, le Navi Yirmiya, il a dit, on peut plus continuer de dire Nora. Il n'est pas Nora, il n'est pas, il fait peur à personne. La preuve, les goyim, ils sont là. Et il s'amuse sur l'enceinte de son temple détruit. Il se passe rien. Où elle est sa Noraout? Où est son caractère Nora? Ah, effrayant. Pas effrayant du tout. Et on peut pas dire des louanges d'Hachem s'ils sont pas vrais. On va se présenter devant Hachem et dire, voilà, moi, quelque part, je te vis pas du tout comme Nora. Pas dire Nora. Nora, Irmiya, il a arrêté de dire Nora. Daniel, qui était à la cour de Nebuchadnezzar, il a fait le même raisonnement avec Gibor. On ne peut pas dire Gibor. Le peuple d'Hachem, il est en esclavage. Où est la puissance d'Hachem? On est exilé, lui, s'il est à la cour de Nebuchadnezzar, c'est pas pour rien. Il est à la cour de Nebuchadnezzar parce qu'il a été convoqué, on l'a mis d'office au service de Nebuchadnezzar. Donc il a arrêté de dire Gibor. Donc on a arrêté. Les Anshe Knesset, ils ont dit un drabat, au contraire. Au contraire, cette situation-là, c'est une manifestation bien plus profonde du côté Nora et du côté Gibor d'Hachem, que le courant, quoi, quelque part, ils ont peur. A peur, ou il est le puissant parce que voilà, il fait la guerre pour son peuple, ou des choses comme ça. Le côté Nora, c'est que Hachem voit tout cela, il voit que on se moque de lui en quelque sorte, et il se tait. Il voit tout ça, et il se tait. Donner une exemple. Alors, en quoi c'est Gibor et Nora? Alors, vous savez, ils ont donné deux exemples. Ben deux, oui. Ils ont dit, le clan d'Israël, dans la situation qui est la sienne aujourd'hui, il est comme un agneau, et entouré de 70 loups, qui lui bouffent la laine sur le dos. Ils peuvent pas le manger. Une autre image, c'est un chasseur, il a l'oiseau dans la main, s'il ferme la main, l'oiseau meurt, il va pouvoir le manger, il peut pas fermer la main. Donc c'est une puissance, et c'est pas du tout une puissance visible qui s'explique, ça se montre pas. On comprend pas. Pourquoi il ferme pas la main? Il n'est pas paralysé, l'autre main il peut la fermer. C'est là s'il pose l'oiseau, il peut la fermer. Pourquoi les loups tout à coup? Pourquoi ils ne mangent pas? Ils peuvent pas le manger. Mais c'est pas du tout qu'ils sont empêchés parce que c'est un bélier qui, s'il essayait de le manger, il allait les tuer. Pas du tout, c'est un agneau. Mais rien. S'ils le mangeaient, ils ne pourraient même pas se défendre. Ils peuvent pas le manger. C'est ça, disent en tchèque Nessakdola, c'est ça le côté Nora et Gibor d'Hachem. C'est son silence, en fait. Nous, on a donc, à la question de savoir pourquoi on l'appelle Anshe Knesset HaGdola, on a dit deux choses. D'une part, ils ont eu la puissance, l'intelligence, l'autorité de dire, voilà ce qu'on accepte dans la Bible hébraïque, canon biblique, nous le fixons. C'est un truc énorme, quoi. Et d'un autre côté, il y a qu'ils ont rétabli la formule standard de la prière. Ils ont rétabli un Gibor et un Nora. Nous, qu'est-ce qu'on pense de ces deux raisons? Laquelle on va choisir pour justifier le nom Anshe Knesset HaGdola? On va choisir le silence d'Hachem? Ou est-ce qu'on va choisir le silence qu'ils ont validé ou magnifié le silence d'Hachem en rétablissant formule de la Tfila, ou bien est-ce qu'on va choisir de dire que leur nom d'Ola vient de ce que ils sont la super autorité qui a décidé de qu'est-ce qui serait la Bible hébraïque, quoi, finalement? Qu'est-ce qu'on va accepter dans la Bible hébraïque? Nous, on aurait bien sûr dit que la grandeur, c'est d'avoir défini le Kitfé HaKodesh. Or, les Chachamim, ils ont répondu dans la Gemara dans Yuma, ils ont répondu que c'était d'avoir rétabli la formule. Eux, ils ont dit le contraire. Ça veut dire que le chidouche qu'ils ont fait apparaître dans le sens de la Noraout et de la Gvoura d'Hachem, ce chidouche-là, il entoure, il contient celui de la clôture du Tanakh, clôture de la Bible hébraïque. Il est plus général, il est plus important. Il faut donc que nous expliquions cette inclusion de la clôture du Tanakh dans le fait d'avoir remis en place la formule de la Tfila. Ils ont réparé, enfin, ils ont décidé que voilà, désormais on va reprendre la façon de le dire, la Amida complète. Pour expliquer le lien en quelque sorte entre ce qui est entouré et ce qui l'entoure. Quel est la qualité de celui qui est tellement, tellement grand qu'il entoure complètement toute cette histoire de définir le Kitfé HaKodesh, de définir le Tanakh. Dans cet esprit-là, en fait, il y a un midrash, c'est un midrash de Shir HaShirim, qui dit que la destruction du Beth Amikdash, elle a produit plus de tzadikim que la construction. Donc l'événement de la construction du Beth Amikdash, c'est un événement très important, très impressionnant, etc. Ça produit des tzadikim. Et la destruction du Beth Amikdash, on a produit encore plus. C'est ça le sujet, en fait. Comment comprendre que la destruction produise encore plus que la construction? C'est un sujet à la fois très profond et aussi à un niveau très élevé, en réalité. Donc on va utiliser ce que je raconte là, c'est un paradisrac. On va utiliser une machale qui a aussi cette qualité de pouvoir bien rendre ce côté à la fois profond et très élevé. Imaginez un maître et des élèves qui l'écoutent sont extrêmement attentifs, ils ne perdent pas du tout un mot de tout ce qu'il dit. Et dans l'ensemble des élèves, il y a un d'entre eux, un élève, qui a une capacité particulière, un don particulier peut-être, qui fait que lui, il est capable de comprendre ce à quoi pense son maître. Il est à la hauteur de la pensée du maître. Le maître parle. J'ai déjà expliqué que le Sechel Haïouni, le Sechel, l'intelligence qui sert à analyser et à comprendre les choses, le Sechel, il est plus haut que le Sechel Adabri, que celui qui est là quand on exprime les choses. Ça veut dire que pour pouvoir exprimer les choses, pour que ce soit exprimé, il ne s'agit pas de les crier aux personnes, mais de les communiquer, de les enseigner le cas échéant, il est bien clair que quand vous parlez pour enseigner, a priori, on doit tenir compte de la personnalité, des qualités, des défauts de l'auditoire. Tu racontes les choses à ta hauteur, tu racontes ça à une classe de jardin d'enfants, bon, n'as pas tenu compte de ça à qui tu parles. Donc il faut toujours, a priori, descendre les choses pour pouvoir les mettre, pour pouvoir les dire. Donc tout le monde entend l'enseignement parlé par le maître, lui aussi. Mais lui en plus, sa qualité lui permet de en quelque sorte, comme s'il se branchait sur la pensée du maître. Et quand le maître se tait et qu'il réfléchit pour lui-même d'abord sur ce qu'il va dire, avant de le redescendre au niveau, de le descendre à un niveau où il va pouvoir le communiquer, à ce niveau-là, qui est plus élevé, donc, à ce niveau-là, le maître réfléchit, et l'élève en question, il se branche à ce niveau-là. Lui, il comprend ce à quoi pense le maître. Veut dire qu'il y a un contact tellement serré entre le maître et l'élève, que le maître, comme si il suivait la pensée du maître, quand il s'arrête de parler, mais qu'il parle, il réfléchit pour lui-même, ben lui aussi, il se branche, il entend ça. Il apprend aussi de ce que le maître ne dit pas. Peut-être que le maître, ce à quoi il pense à ce moment-là, il ne le dira pas. Il va peut-être penser, non, mais... Ok, si. Je ne vais pas le dire. Mais l'élève en question, il l'a entendu. Enfin, il l'a pas entendu. Il l'a compris. Quand le maître pense pour lui, il ne tient pas compte de l'auditoire, de ses élèves. Seulement quand il va parler, il va tenir compte des élèves. Donc, quand le maître passe de la parole au silence, pour l'ensemble des élèves, il y a une rupture complète du lien entre le maître et eux. Il y a rien qui, plus rien ne passe. Pendant ce temps-là, il n'y a rien qui passe. Parce que eux, ces élèves, ils reçoivent de la parole du maître. Et pour ce Talmid, pour cet élève qui a cette qualité particulière, pendant ce moment-là, où le maître continue de réfléchir, où lui, il n'y a pas de rupture, il continue de recevoir de son maître. Et il s'élève au niveau de la pensée du maître. C'est-à-dire une pensée qui, a priori, est plus profonde que la pensée qu'il exprime quand il enseigne à ses élèves. Ça, c'est donc cette image. Au début de la, au moment de la destruction du deuxième Beth Amikdash, quand Titus est entré dans le Kodesh HaKodashim, et que il a voulu profaner au maximum le Kodesh HaKodashim, alors il dit dans Chazal que il a eu un rapport avec une prostituée dans le Kodesh HaKodashim. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé sur quel mode? Sur le mode du silence. Hachem n'a rien dit. Hachem n'a pas réagi à cela. Sur ce silence, les Chachamim ont fait cette fameuse drasha sur le passouk de la Shira. Dans la Shira, c'est marqué Mi Chamocha Ba'eli Hashem. Qui est comme toi parmi les puissants? Elim, certains disent que c'est parmi les divinités, Hachem. Les Chazal font la bracha, hein? Le mot Elim, ils le lisent comme si c'était Ilmim, c'est-à-dire les muets. Qui est comme toi, comme les muets? Qui est comparable à toi parmi les muets? Donc, ce moment, quand est-ce qu'Hachem est qualifié comme, par cette phrase, Mi chamocha ba'ilimim Hachem, c'est à ce moment-là, au moment de Titus. Tu entends, tu vois la profanation et tu te tais. On apprend de là que la pensée sur le processus de destruction, elle a, cette pensée-là, elle a un aspect plus profond qui ne se retrouve pas dans la pensée qui a accompagné la construction du Beth Amikdash. Parce que au moment du Khurban, c'est comme si Hachem avait écrit sur lui-même qu'il se taisait, en quelque sorte. Et si on revient à notre image, quand est-ce que le maître se tait? On pourrait dire lorsque il va penser plus profondément que ce qu'il était en train de dire. Il va dire mieux encore. Il va, sa pensée, elle va être à un niveau inaccessible pour l'instant pour les élèves. Mais en fait, les neshamot, les âmes de ceux qui servent Hachem, qui ont donc une qualité de sensibilité à la pensée du Rav, en quelque sorte. Au moment où il se tait, si on peut parler comme ça, les gens qui ont ces âmes-là, ce sont les tzadikim. Ils sont du côté justement de cette en plus. Dans la situation du Khurban, dans la situation de la destruction, par rapport à la pensée qui accompagne la construction du Beth Amikdash. C'est ça que dit le Midrash dans Shir HaShirim, c'est basé sur un passage en fait. Et le Tzadikim, il y en a eu plus au moment de la destruction qu'au niveau de la construction. Il y a un principe, Racham Adif Minavi. Le Racham est supérieur au prophète. On peut expliquer cette phrase de plusieurs manières. Mais la manière d'expliquer qui nous concerne maintenant dans ce qu'on est en train de dire, c'est que la prophétie elle n'a rien à voir avec on va dire le contraire. C'est plus facile de le dire en anglais. Plutôt dire que la prophétie, elle est spécifiquement dirigée vers les visions qui concernent l'autre. La prophétie, c'est quand Hachem parle à quelqu'un. La plupart des prophéties sont des prophéties qui sont données aux prophètes pour qu'ils répercutent, qu'ils transmettent ce qui lui a été dit à d'autres, soit au roi ou au peuple Mais si on peut parler comme ça de ce qui se dévoile au moment de la shtika, au moment du silence, ça, c'est quelque chose sur lequel la nevoua, la prophétie, n'a rien à dire. Parce que la prophétie, elle est liée à la parole. Elle l'utilise pour la prophétie Nivs Vatayim. Ça veut dire, c'est quelque chose qui est produit par les lèvres, en fait. C'est particulièrement vrai du dibour, de la parole. La chokhma, elle a cet avantage par rapport à la nevoua, puisqu'on cherche quelle est la difoute, en quoi est-ce qu'elle est supérieure. C'est que le monde du silence, le monde de la shtika, il peut être compris, peut être, il est accessible à la chokhma. Le chacham, il a à voir avec là, avec justement ce monde de la chokhma, enfin de la shtika, c'est-à-dire que pendant la shtika, la chokhma, elle peut permettre éventuellement de se brancher sur la pensée. Et au contraire, en fait, nos maîtres ont enseigné que parfois, la shtika, c'est un moyen d'augmenter la chokhma. On dit, siag la chokhma, shtika. C'est une limite, mais bon, c'est quelque chose qui va le pousser vers le haut. Et bien sûr que le silence n'est jamais, la shtika n'est pas du tout une élévation pour la nevoie. Y a pas de nevoie, la nevoie, elle grandit pas par le silence. Elle a rien à voir avec le silence. Donc, pour ce qui nous intéresse, la hadifout, la supériorité du Chacham sur le Navi, ça se dévoile particulièrement au moment du silence. Le silence, c'est quoi? Le silence, c'est la destruction. C'est au moment du Korban, où Hachem ne réagit pas. Et quand arrive le moment du Korban, puisqu'à ce moment-là, ça correspond à Mi Chamocha Ba'ilmim, c'est ça que qui caractérise la façon dont Hachem gouverne le monde. Kadosh Baruch Hu se dévoile donc par le biais de la shtika. À ce moment-là, il n'y a plus de devoir. Et en fait, on ne peut plus, dans la liste des louanges d'Hachem, on ne peut plus dire Gibor Venora. On ne peut plus les prononcer. Ne pas le dire. Parce que Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il laisse le chotem d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Hémet. C'est vrai. Et donc on peut pas dire des louanges d'Hachem qui sont faux. Puisque c'est au moment du Qurban, au moment de la destruction, alors la façon de gouverner avec quand on fait les louanges d'Hachem, c'est comme pour les anges d'Hachem. On énumère des façons de gouverner le monde. Quand on dit qu'Hachem, il est Gibor, parce que il se manifeste de telle sorte qu'on voit sa Gvoura. Et presque, il faut peut-être pas dire le sa Gvoura. Vous laisserez à penser que la Gvoura est une partie de lui. Ce n'est pas une partie de lui. Mais quand je dis sa Gvoura, pour être un peu cohérent avec ce que je raconte depuis tout le temps, d'accord, je devrais dire que ce n'est pas la Gvoura qui serait un attribut. Il n'y a pas l'attribut. Donc c'est la Gvoura dont on sait qu'il en fait usage. Dans la liste de les façons dont il a de gouverner le monde, il a décroché le. C'est la Gvoura maintenant. Et à ce moment-là, au moment du Khurban, la Gvoura et la Noraout ne se dévoilent pas par rapport au prochain. Donc la Nevoa, elle demande, mais alors, si c'est pas comme ça, parce que Hachem ne se manifeste pas, il n'y a pas de vers quelque chose. Donc la Nevoa, elle dit, mais il n'y a plus de Gvoura, il n'y a plus de Noraout. Alors c'est vrai que la Nevoa, d'une certaine manière, elle empêche Daniel et Yirmiyahu de dire Gibor Venora. Parce que c'est pas vrai. Dans votre bouche, vous êtes au moment du Korban, vous ne pouvez pas dire une chose pareille. Un tchèque n'est cet acte-là, qui sont ceux qui ont mis la limite entre les écrits, entre les textes qui appartiennent au Tanakh et ceux qui n'y appartiennent pas. Et à ce moment-là, il n'y a plus de nevoie. La nevoie, elle n'existe plus. Et la direction du monde par les hommes, elle est passée du côté de la Chokhma. Ce n'est plus les prophètes qui disent ce qu'il faut faire, c'est les Chachamim qui vont dire ce qu'il faut faire désormais. C'est-à-dire qu'on est à un niveau plus élevé. Chacham adif minavi. Et donc, très souvent, quand on décrit les choses, quand on décrit l'histoire juive, en quelque sorte, on a l'impression que ça descend, quoi. Donc, d'après ça, la Chokhma, c'est inférieur à la Nevoa. Alors, c'est vrai que c'est les Chachamim qui le disent. Ils disent que la Chokhma, elle est supérieure à la Nevoa. Donc, ça ne descend pas, au contraire, ça monte à ce moment-là. Ça veut dire que la Chokhma, elle a des moyens de comprendre, de concevoir la pensée du maître, comme on dit. même quand il se tait. Ça veut dire que le Emet, c'est que la Chochma, elle renouvelle les mots Gibor Venora que les Anshe Knesset Agdola ont rétablis. Ils n'ont pas rétabli Gibor Venora tel que ce qu'ils voulaient dire au moment où on les a mis dans la tefila. Ils ont remis les mêmes mots, mais ces mots-là, ils sont encore plus puissants, quoi. Ils parlent d'un autre type de Gvura, d'un autre Noraout. Un Noraout qu'Hachem empêche les loups de bouffer l'agneau. Qui empêche l'homme de fermer la main. C'est-à-dire quelque chose de difficile à comprendre. Il voit, Hachem voit ce qui se passe et il se tait. Ça correspond à quelque chose de plus profond, parce que ça correspond dans notre image au moment où le maître il réfléchit plus profondément à quelque chose qu'il va dire ou pas dire. Au moment où il réfléchit, il va pas le dire, encore plus profondément que ce qu'il a dit jusqu'à présent. Donc c'est vraiment adraba. Au contraire, c'est-à-dire, vous pensez qu'il n'y a plus de Gvoura. Non, non, c'est une Gvoura bien, non seulement il y en a, mais elle est encore bien plus forte que ce que vous croyez, le sens que vous avez donné au mot Gibor Nora. Donc ces fameux tzadikim qui sont produits par le Courban, plus nombreux, plus grands que ceux que le Binyan a produits, ça veut dire que de changer en quelque sorte le sens, la profondeur des louanges qu'on dit d'Hachem, c'est makif, ça entoure cette idée de dire que juste qui te fait à Kodesh, ça va jusque-là. Parce qu'on entre dans quelque chose qui dépasse le jusque-là. Bon, quelque part, mettre un terme, c'est-à-dire au qui te fait à Kodesh, quelque part, d'accord, c'est une puissance, mais tu mets un terme. C'est comme si tu regardes du point de vue des élèves, voilà, le maître dit plus rien. Il a fini de nous dire. Mais c'est inférieur à quelque chose qui pourrait continuer. Là, en l'occurrence, on ne pouvait pas continuer. Il ne pouvait pas ajouter d'autres textes au canon biblique, en fait. C'est la puissance de Dieu. Mais tu entres dans le fini, quoi, quelque part. Alors que quelque part, avec la Chorma, on va aussi entrer dans la Chorma. Parce que le chidouche, dans le sens des louanges qu'on peut dire à Hachem, c'est ce chidouche-là, il met un terme à la période Nevoa, et il commence la période des Chachamim. Là, non. On est à la charnière, en quelque sorte. On va entrer dans du plus profond encore. Voilà, on va s'arrêter là.
Rav, y a-t-il une étape, c'est l'étape ultime, la Rochma, après la Nevia, ou il pourrait y avoir une étape, une étape, puisque elle paraît, à la fin de votre propos, elle paraît infinie, en fait, la Rochma. Il n'y a pas de limite, c'est pas jusque-là. Donc, ça serait l'étape ultime, en définitive.